Henry James, un portrait de femme, chapitre 26. Gilbert Osmond vint voir Isabelle au palais Crescentini. Il avait d'autres amis dans la vieille demeure et montrait toujours une impartiale courtoisie à Mrs. Tuchet et à Madame Merle, mais la première de ces deux dames nota qu'on l'avait vue 5 fois en moins d'une quinzaine et n'eut pas de peine à établir une comparaison entre cette assiduité et l'indifférence d'un passé récent. Une visite bisannuelle représentait jusque-là son tribut régulier au mérite de Mrs. Tuchet, sans jamais coïncider avec les époques régulières où Madame Merle habitait sous son toit. Ce n'était pas pour sa vieille amie Madame Merle qu'il venait, car il ne se mettait point en frais à son intention. Il n'aimait pas Ralph, comme ce dernier l'avait dit à sa mère, et il n'était pas probable que Mr. Osmond se fût pris pour le jeune homme d'une sympathie soudaine. Ralph restait imperturbable. Il cultivait une sorte de large urbanité qui l'enveloppait comme un pardessus mal taillé, mais dont il ne se départait guère. Il trouvait la société de M. Osmond fort agréable et ne refusait jamais de l'accueillir avec des sentiments d'hospitalité. Mais il ne se flattait pas que le désir de réparer une injustice motivât seul les visites de son ancien ennemi et voyait assez clair dans la situation. L'attraction, c'était Isabelle, et en toute conscience, c'était une attraction suffisante. En sa qualité de critique et d'amateur de choses exquises, il était naturel qu'Osmond fût attiré par une présence si rare. Aussi, lorsque Mrs. Tuchet lui fit observer qu'il n'y avait pas à se tromper sur les projets de M. Osmond, Ralph lui répondit qu'il partageait pleinement son opinion. Depuis longtemps, Mrs. Tuchet réservait, sur sa courte liste, une place à ce gentleman, non sans se demander confusément par quel art et par quel procédé, tant ils étaient sagaces et négatifs, il avait si bien pu s'imposer partout. Faute de jamais se montrer visiteur assidu, il ne s'était pas non plus rendu importun et se recommandait à Mrs. Tuchet par la facilité manifeste avec laquelle il se passait d'elle comme elle se passait de lui, qualité qui, de façon assez bizarre, faisait l'effet à cette dame de fournir un solide terrain d'entente. Elle n'en trouvait d'ailleurs pas plus de satisfaction à l'idée qu'il pût songer à épouser Isabelle. Une telle alliance donnerait à la jeune fille un air de perversité presque morbide. Mrs. Tuchet ne pouvait oublier le refus opposé par sa nièce à un pair d'Angleterre et l'idée qu'une jeune fille avec qui Lord Warburton s'était en vain mesuré pût se contenter d'un obscur dilettante américain, veuf entre deux âges, pourvu d'une malencontreuse fille et d'un revenu incertain, ne répondait en rien à la conception que Mrs. Tuchet se faisait du succès. On voit qu'elle considérait le mariage du point de vue politique et non point sentimental, ce qui est toujours une louable façon de l'envisager. « J'espère qu'elle n'aura pas la folie de l'écouter, » confia-t-elle à son fils. À quoi Ralph répliqua que, pour Isabelle, écouter et répondre étaient choses à ne pas confondre. Il savait qu'elle avait écouté plusieurs parties, comme aurait dit son père, et les avait fait écouter à leur tour, et il se réjouissait fort de la perspective de voir, après quelques mois de connaissance, un nouveau prétendant soupirer à sa porte. Elle demandait à voir la vie, et la destinée répondait à ses goûts. Une série de beaux messieurs tombant à ses genoux lui fournirait un assez joli motif d'intérêt. Ralph attendait un quatrième, un cinquième, un dixième assiégeant, sans pouvoir se figurer qu'elle cédât au troisième. Elle entrebâillerait la porte pour entrer en pourparler, sans aucune intention de rendre la place au numéro 3. Il exprima cette conviction, presque en ces termes, à sa mère, qui le regarda comme s'il eût dansé une gigue. Il avait une façon si fantaisiste et si pittoresque de dire les choses qu'il eût aussi bien pu s'adresser à elle en langage de sourd-muet. « Je ne saisis pas très bien ce que tu veux dire, » déclara-t-elle. « Ton langage est trop imagé pour moi, et je n'ai jamais compris les allégories. Les deux mots que j'admire le plus sont « oui » et « non ». S'il plaît à Isabelle d'épouser M. Osmond, elle le fera malgré toutes tes comparaisons. Fie-toi à elle pour en trouver une belle en tout ce qui lui plaira d'entreprendre. Je sais peu de choses du jeune homme d'Amérique. » Je ne pense pas qu'elle songe beaucoup à lui et il a dû se lasser de l'attendre. Il n'y a rien qui puisse l'empêcher d'épouser M. Osmond si elle se met à le considérer d'une certaine façon. C'est fort bien. Nul plus que moi n'apprécie qu'on agisse à sa guise. Mais elle se plaît à de si étranges choses. Elle est capable d'épouser M. Osmond pour la beauté de ses opinions ou pour son autographe de Michel-Ange. Elle veut se montrer désintéressée, comme si elle était la seule personne qui risque de ne pas l'être. Sera-t-il désintéressé, lui, quand il aura la disposition de l'argent ? C'était déjà son idée avant la mort de ton père, et il s'y est ajouté quelques chances depuis. Elle devrait épouser un homme dont le désintéressement lui soit assuré, et ne pourrait en trouver de meilleures preuves que dans la possession d'une fortune à lui. « Ma chère mère, je n'ai pas de crainte, » répondit Ralph. « Elle se moque de nous tous. Elle suivra évidemment son désir, mais elle prendra surtout plaisir à étudier de près la nature humaine sans compromettre sa liberté. Elle a entrepris une expédition de découverte et ne me paraît pas prête à y renoncer dès le départ sur un signe de Gilbert Osmond. Elle peut avoir un peu modéré son allure pendant une heure, mais elle repartira bientôt à toute vapeur. Excuse cette nouvelle métaphore. » Mrs. Touchett l'excusa sans doute, mais ne se sentit pas suffisamment rassurée pour résister au désir d'exprimer ses craintes à Madame Merle. « Vous qui n'ignorez rien, commença-t-elle, vous devez savoir si cet étrange individu fait vraiment la cour à ma nièce. »« Gilbert Osmond ?» Madame Merle ouvrit de grands yeux et s'écria avec conviction. « Dieu me pardonne, c'est une idée ? Elle ne vous était pas venue. Vous me faites sentir ma balourdise, mais j'avoue que je n'y avais pas pensé. » « Je m'en demande si Isabelle s'en est avisée. »« Je vais m'en assurer tout de suite, » dit Mrs. Touchett. Madame Merle réfléchit. « Ne lui mettez pas cette idée en tête. Le mieux serait d'interroger Monsieur Osmond. »« C'est impossible, » se récria Mrs. Touchett. « Je ne veux pas qu'il me demande avec son air tranquille, ce qui se pourrait fort bien étant donné la situation d'Isabelle, ce que j'ai à voir dans l'affaire. »« Alors je m'en chargerai, moi, » déclara courageusement Madame Merle. « Et en quoi cela vous regarde-t-il, vous ? C'est justement parce que cela ne me regarde pas que je puis m'y risquer. J'ai si peu de raisons de me mêler de cette affaire qu'il aura toute facilité pour me donner la première réponse venue. C'est son ton même qui me renseignera. « Vous voudrez bien me faire connaître les fruits de votre pénétration, » dit Mrs. Touchett. « Moi, si je ne puis lui parler à lui, je puis au moins avertir Isabelle. » Madame Merle prit une mine circonspecte. « N'agissez pas trop précipitamment. » N'allez pas mettre son imagination en feu. Je n'ai jamais de ma vie excité l'imagination de personne. Mais je m'attends toujours à lui voir faire quelque chose que je ne songerais pas à faire moi-même. « Alors ce mariage vous déplairait ?» demanda Madame Merle avec curiosité. « Et en quoi, au nom du ciel, pourrait-il me plaire ? Monsieur Osmond n'a rien de solide à offrir. » Madame Merle ne répondit pas tout d'abord, et laissa détendre par un sourire rêveur et plus charmant encore que de coutume l'angle gauche de sa bouche. Distinguons. Gilbert Osmond n'est certainement pas le premier venu. C'est un homme qui pourrait, dans des conditions favorables, faire une grande impression. Il n'y a d'ailleurs pas manqué plus d'une fois à ma connaissance. « Ne me parlez pas des affaires amoureuses qu'il a dû mener avec trop de clairvoyance, » s'écria Mrs. Touchett. « Je n'en veux rien savoir. C'est pour cela précisément que je souhaiterais lui voir interrompre ses visites. » À ma connaissance, à moi, tout ce qu'il possède au monde, c'est une douzaine de primitifs et une petite fille plus ou moins impertinente. Les primitifs se vendent bien de nos jours, constata Madame Merle, et quant à la fillette, c'est une enfant très jeune, très douce et très inoffensive. En d'autres termes, une petite pécore insipide. Est-ce bien là ce qu'il faut comprendre ? Faute d'argent, elle n'aura pas l'espoir de se marier comme on le fait ici, et Isabelle devra l'entretenir ou lui donner une dot. Isabelle ne verrait sans doute aucun inconvénient à se montrer bonne pour cet enfant. Je crois qu'elle l'aime bien. Raison de plus pour prier Monsieur Osmond de rester chez lui. Autrement, nous allons voir ma nièce conclure, avant une semaine, que sa mission dans la vie est de prouver qu'une belle-mère est susceptible de sacrifice et que pour le démontrer, elle doit d'abord le devenir. Elle ferait une charmante belle-mère, mais je suis pleinement d'accord avec vous que mieux vaut pour elle qu'elle ne pas trop se hâter à s'astreindre à pareille mission. Il est presque aussi difficile de changer le sens de sa mission que la forme de son nez. Ce sont deux appendices plantés en plein milieu du visage ou du caractère et qu'il faut aller chercher fort loin dans le passé. Mais je vais faire mon enquête et je vous en rendrai compte. » Tout ceci se passait à l'insu d'Isabelle et sans qu'elle se doutât que ses rapports avec M. Osmond fussent l'objet d'une discussion. Madame Merle n'avait rien dit pour la mettre sur ses gardes. Elle n'avait pas insisté sur le comte d'Osmond plus que sur celui des autres Florentins, étrangers ou autochtones, qui venaient maintenant en grand nombre présenter leurs hommages à la tante de Miss Archer. Isabelle trouvait Osmond intéressant, c'est là qu'elle en revenait toujours, et aimait penser à lui sous ce jour. Elle avait rapporté de sa visite à la maison de la colline une impression qu'une plus ample connaissance de son propriétaire ne fit rien pour effacer, et qui évoqua pour elle une harmonie particulière avec d'autres faits supposés ou devinés, d'histoires dans d'autres histoires. L'image d'un homme paisible, intelligent, sensible, distingué, qui déambulait sur une terrasse moussue dominant le doux Val d'Arnaud et tenait par la main une petite fille dont la netteté de clochette prêtait à l'enfance une grâce nouvelle. Le tableau ne comportait pas de magnificence, mais elle en aimait le ton atténué et l'atmosphère de crépuscule d'été. Elle y trouvait le spectacle le plus propre à la toucher, l'évocation d'un choix entre objet, sujet, contact, comment dire, d'une médiocre existence et ceux d'une somptueuse félicité, d'une vie solitaire et studieuse dans un adorable pays, d'une vieille peine qui se réveillait parfois, d'un sentiment d'orgueil qui pouvait être excessif, mais comportait un élément de noblesse, d'un souci de beauté et de perfection, à la fois si naturel et si cultivé que la vie semblait dans son ombre disposée en perspectives étudiées, en harmonie d'escaliers, de terrasses et de fontaines d'un classique jardin italien, où, sur les espaces arides, tombait la rosée apaisante d'une étrange paternité, à demi inquiète, à demi maladroite. Au Palazzo Crescentini, M. Osmond restait le même, timide d'abord, non sans un orgueil dont un œil sympathique pouvait seul voir qu'il s'efforçait de le vaincre, effort qui se résolvait d'ordinaire en propos agréables, enjoués, très positifs, un peu agressifs, toujours évocateurs. La conversation de M. Osmond ne témoignait pas d'un évident désir de briller. Isabelle n'avait pas de peine à croire à la sincérité d'un homme qui donnait tant de marques d'une conviction solide, telle, par exemple, une appréciation intelligente et gracieuse de ce qui pouvait se dire à l'appui de sa propre opinion, surtout peut-être quand c'était Miss Archer qui le disait. Ce qui ravissait Isabelle, c'est que tout en causant par plaisir, il ne visait jamais à l'effet, comme elle l'avait entendu faire à d'autres. Il émettait ses idées comme si, malgré leurs fréquentes bizarreries, il fût habitué à elles et eût vécu avec elles. C'étaient de vieux panneaux polis, des têtes, des poignets qui pouvaient s'adapter aux besoins à des cannes neuves, et non pas des houssines arrachées par l'indigence au tronc banal et trop élégamment agité. Un jour, Osmond amena sa petite fille, et Isabelle se réjouit de renouveler connaissance avec l'enfant, dont le geste pour offrir son front à baiser à tous les membres du cercle lui rappelait les ingénues des pièces françaises. Isabelle n'avait jamais vu petite personne taillée sur ce modèle, et aussi différente des jeunes américaines que des vierges anglaises. Pensée, parfaitement faite et achevée pour la place minuscule qu'elle occupait au monde, ne demeurait pas moins parfaitement innocente et enfantine. Assise sur le sofa à côté d'Isabelle, elle portait un petit manteau de grenadine et une paire de gants d'usage que lui avait donné Madame Merle, de petits gants gris à un seul bouton. Elle était comme une feuille de papier vide, l'idéale jeune fille des romans étrangers. Isabelle espérait qu'une page si nette et si blanche ne s'offrirait qu'à un texte édifiant. La comtesse Gemini vint aussi la voir, mais avec la comtesse il en allait tout autrement. Ce n'était plus une page blanche, elle portait les traces de nombreuses écritures, et Mrs. Touchett, qui n'était nullement sensible à l'honneur de sa visite, affirmait voir à sa surface nombre d'indiscutables taches. La comtesse suscita même entre la maîtresse de la maison et Madame Merle une discussion au cours de laquelle cette dernière, qui n'avait pas la faiblesse d'agacer ses interlocuteurs en partageant toujours leur opinion, se prévalut assez heureusement de la grande latitude de dissentiment que Mrs. Touchett autorisait aussi généreusement qu'elle en usait elle-même. Mrs. Touchett voyait une marque d'audace peu commune, de la part d'une personne hautement compromise, dans le fait de se présenter à pareille heure à la porte d'une maison où elle devait se savoir aussi peu estimée qu'au Palazzo Crescentini. Isabelle avait été mise au courant de l'opinion qui prévalait en ce lieu sur la sœur de M. Osmond. On l'y tenait pour une femme qui avait si bien affiché ses inconvenances qu'elles avaient cessé de former un bloc, comme on peut l'exiger en pareille matière, et n'étaient plus que les débris flottants d'une renommée détruite, gênante pour la circulation générale. Elle avait été mariée par sa mère, personne peu pratique et remplie pour les titres étrangers d'une admiration que la fille, pour lui rendre justice, avait sans doute perdue maintenant, à un gentilhomme italien qui lui avait sans doute fourni quelque excuse à tâcher d'effacer une impression d'outrage. Mais la comtesse s'était aussi outrageusement consolée, et la liste de ses excuses se perdait à l'heure actuelle dans le labyrinthe de ses aventures. Mrs. Touchett n'avait jamais consenti à la recevoir, bien que la comtesse lui eût depuis longtemps fait des avances. Florence n'avait rien d'une ville austère, mais comme le disait Mrs. Touchett, il fallait bien tirer l'échelle quelque part. Madame Merle défendait l'infortunée avec beaucoup de zèle et d'esprit. Elle ne voyait pas pourquoi Mrs. Touchett traitait en brebis galeuse une femme qui n'avait jamais vraiment fait de mal et s'était contentée de faire le bien à tort et à travers. Qu'il fallût tirer l'échelle, la chose était incontestable, mais encore fallait-il la tirer à bon escient, et l'échelle qui exclurait la comtesse Gemini serait bien fragile. Mieux valait alors pour Mrs. Touchett fermer sa maison, ce qui serait peut-être raisonnable tant qu'elle demeurerait à Florence. Il fallait être juste et éviter les distinctions arbitraires. La comtesse avait évidemment été imprudente et moins adroite que d'autres. C'était une bonne créature, sans la moindre intelligence. Mais depuis quand pareil défaut motivait-il l'exclusion de la haute société? Depuis fort longtemps, on n'avait rien entendu dire sur son compte, et il ne pouvait y avoir de meilleure preuve de son renoncement à ses erreurs passées que son désir de se mêler au cercle de Mrs. Tutchett. Isabelle ne fournit aucun appoint à cette intéressante discussion, pas même une attention patiente. Il lui suffisait d'avoir fait un amical accueil à la malheureuse dame, qui, malgré toutes ses fautes, conservait du moins le mérite d'être la sœur de M. Osmonde. Puisqu'elle avait de la sympathie pour le frère, Isabelle trouvait opportun de tâcher d'en avoir pour la sœur. Elle restait accessible à ses conclusions simples, en dépit de la croissante complexité des choses. Elle n'avait pas conçu une haute opinion de la comtesse lors de leur rencontre à la villa, mais n'en était que plus heureuse de pouvoir revenir sur son impression. Monsieur Osmonde n'avait-il pas affirmé que c'était une personne respectable? C'était, de la part de Gilbert Osmonde, une appréciation assez terne, mais Madame Merle s'était chargée de lui apporter le poli nécessaire. Elle en dit plus long à Isabelle sur la comtesse Gemini que ne l'avait fait Osmonde, sans cacher l'histoire de son mariage et de ses conséquences. Le comte appartenait à une ancienne famille toscane, de moyens si réduits qu'il s'était estimé heureux d'accepter Amy Osmonde, en dépit de la beauté douteuse qui n'avait pas encore entravé sa carrière, avec la dot modeste que lui octroyait sa mère. Cette somme était à peu près équivalente à celle qui formait déjà la part de son frère dans leur patrimoine. Mais depuis ce temps-là, le comte Gemini avait reçu quelque argent en héritage, et ils étaient maintenant assez à leur aise pour des Italiens, malgré la terrible extravagance d'Amy. Le comte était une brute de bas étage, dont la conduite fournissait à l'avance toutes excuses à sa femme. Elle demeurait sans enfant, en ayant perdu 3 moins d'un an après leur naissance. La mère, qui étalait des prétentions à l'élégance, publiait des poèmes lyriques et envoyait à des hebdomadaires anglais des articles sur l'Italie, était morte 3 ans après le mariage. Quant au père, resté perdu dans les brumes d'Amérique avec une réputation de richesse et de folie, il était mort bien des années auparavant. On s'en apercevait à regarder Gilbert Osmonde, commentait Madame Merle. On voyait qu'il avait été élevé par une femme, bien que, pour lui rendre justice, on eût cru que c'était par une femme plus sage que la Corinne américaine, comme aimait à se faire appeler Mrs. Osmonde. Elle avait amené ses enfants en Italie après la mort de son mari, et Mrs. Tutchett se souvenait de l'avoir vue au cours de la première année qui suivit son arrivée. Elle en faisait une affreuse snob, ce qui constituait un illogisme de sa part, puisqu'elle approuvait, au même titre que Madame Osmonde, les alliances politiques. La comtesse Gemini était de très bonne compagnie, et n'avait en fait rien de la linotte qu'elle semblait être. Le tout avec elle, c'était de ne pas croire un mot de ce qu'elle disait. Madame Merle s'était toujours accommodée de sa société par amour pour son frère. Il appréciait toutes les amabilités qu'on pouvait témoigner à Amy parce que, soit dit en passant, il se rendait compte du tort qu'elle faisait à leur nom commun. Évidemment, il ne pouvait pas goûter son style, ses outrances, son égoïsme, les entorses qu'elle donnait au bon goût, et surtout à la vérité, elle agaçait rudement ses nerfs et ne répondait en rien à l'idéal qu'il se faisait des femmes. Quel était donc cet idéal ? L'opposé même de la comtesse, une femme pour qui la vérité fut chose sacrée. Isabelle ne pouvait apprécier le nombre de mensonges qu'avait en une demi-heure proféré la comtesse, qui lui donnait au contraire une impression de sincérité assez niaise. Elle n'avait guère parlé que d'elle-même, disant combien elle serait heureuse de connaître Miss Archer, quelle joie lui procurerait une vraie amitié, affirmant la médiocrité des gens de Florence et son dégoût de cette ville, proclamant qu'elle eût voulu vivre n'importe où ailleurs, à Paris, à Londres, à Washington. On ne trouvait rien à se mettre de joli en Italie qu'un peu de vieille dentelle, les prix montaient partout et lui imposaient une vie de renoncement et de privation. Madame Merle écouta, non sans intérêt, ce que lui rapporta Isabelle, mais n'en éprouva pas d'inquiétude. En somme, elle n'avait pas peur de la comtesse, et pouvait recourir à son endroit à la plus sûre attitude, en laissant voir sa parfaite tranquillité. Isabelle avait reçu entre-temps la visite d'une autre amie, qui n'était pas, même derrière son dos, facile de traiter à la légère. Henriette Stackpole avait quitté Paris après le départ de Mrs. Tutchett pour San Remo, et après s'être, comme elle le disait, frayé la route à travers les villes de l'Italie du Nord, avait atteint les rives de l'Arno vers le milieu de mai. Madame Merle, d'un seul coup d'œil, la saisit de pied en cap, et après un moment de pénible angoisse, décida de l'accepter. Elle se résolut même à en tirer de la joie. Miss Stackpole n'était pas de celles qui se respirent comme une rose, mais qui s'empoignent comme une ortie. Madame Merle, avec beaucoup d'amabilité, la réduisit à une innocuité parfaite et montra à Isabelle qu'elle rendait pleine justice à son amie en comptant de sa part sur une pareille libéralité. L'arrivée d'Henriette avait été annoncée par Mr. Bentling, qui, arrivant de Nice tandis qu'elle était encore à Venise et croyant la trouver à Florence, vint exprimer sa déception au palais Crescentini. Henriette ne survint que 2 jours après, et cette réunion éveilla chez M. Bentling une émotion facilement explicable quand on saura qu'ils ne s'étaient pas revus depuis leur commun séjour à Versailles. Tout le monde apprécia le côté plaisant de la situation, sans l'exprimer aussi vigoureusement que Ralph, qui, dans sa chambre, où Bentling fumait un cigare, se permit une joviale satire des rapports de l'universelle compétente et de son cavalier servant. Bentling prit la chose en bonne part, et avoua ingénument que l'affaire prenait pour lui les proportions d'une véritable aventure intellectuelle. Il éprouvait un goût très marqué pour Miss Stackpole, qui portait sur les épaules une tête étonnante, et trouvait grand plaisir à la société d'une femme qui ne se demandait pas perpétuellement comment on pourrait juger ce qu'elle disait ou faisait, et ce qu'ils faisaient ensemble. Et Dieu sait tout ce qu'ils avaient pu faire. Miss Stackpole ne se préoccupait jamais du « qu'en dira-t-on ». Pourquoi, dans ces conditions, s'y fut-il attaché, lui ? Il était prêt à aller aussi loin qu'elle et ne voyait aucune raison de renâcler le premier. Henriette ne montrait nulle velléité de renâcler non plus. Ses perspectives s'étaient élargies en quittant l'Angleterre et elle jouissait maintenant pleinement d'abondantes ressources. Elle avait pourtant dû renoncer définitivement à pénétrer la vie profonde de la société. La question présentait sur le continent des difficultés plus nombreuses encore qu'en Angleterre. Mais la vie extérieure y était du moins palpable et visible à chaque pas, et fournissait des éléments mieux adaptables aux usages littéraires que les coutumes de ces impénétrables insulaires. Comme elle le faisait ingénieusement remarquer, on avait dans les pays continentaux l'impression de voir, de la rue, le bon côté de la tapisserie, tandis qu'en Angleterre on n'en voyait que l'envers, sans pouvoir se rendre compte du dessin. Cet aveu coûte beaucoup à son historiographe, mais Henriette, sans plus d'espoir d'atteindre aux faits souterrains, accordait maintenant beaucoup d'attention à la vie extérieure. Elle venait de l'étudier pendant 2 mois à Venise, et de cette ville avait envoyé à l'intervieweur une description consciencieuse des gondoles, de la piazza, du pont des soupirs, des pigeons, et du jeune batelier qui récitait les poèmes du Tasse. L'intervieweur était peut-être déçu, mais Henriette voyait enfin l'Europe. Son intention était maintenant de se rendre à Rome, avant l'arrivée de la malaria. Elle semblait croire que la maladie survenait à jour fixe, et n'avait par suite que quelques jours à passer à Florence. Mr. Bentling allait l'accompagner, et Henriette fit valoir à Isabelle que le fait de connaître déjà la ville des Césars, d'être officier et d'avoir reçu une instruction classique, il avait fait ses études à Eton, où l'on étudiait selon Miss Stackpole que le latin, ferait de lui le plus utile des compagnons. Sur ces entrefaites, Ralph eut l'heureuse inspiration de proposer à Isabelle d'aller elle aussi, sous sa propre escorte, faire un pèlerinage à Rome. Elle devait bien y passer une partie de l'hiver suivant, mais il ne pouvait y avoir d'inconvénient à jeter sur la ville un premier coup d'œil. Il restait encore 10 jours du beau mois de mai, le plus précieux des mois pour tout véritable ami de la ville éternelle. Elle aurait un fidèle compagnon, dont la société, grâce à d'autres objets qui solliciteraient son attention, ne serait sans doute pas trop gênante. Madame Merle restait près de Mrs. Tutchett. Elle avait quitté Rome pour l'été et ne se souciait pas d'y retourner. Elle se disait ravie qu'on la laissât tranquille à Florence. Elle avait fermé son appartement et envoyé sa cuisinière au Vert, à Palestrina. Elle conseilla à Isabelle d'accepter la proposition de Ralph et lui affirma qu'un bon guide dans Rome n'était pas chose à dédaigner. À la vérité, il n'y avait pas besoin de beaucoup d'insistance pour convaincre Isabelle et les 4 autres compagnons firent leurs préparatifs de départ. Mrs. Tutchett s'était résignée, en cette occasion, à l'absence de duègne. Nous avons vu qu'elle inclinait maintenant à penser que sa nièce pouvait disposer d'elle-même. Un des préliminaires du voyage consista pour Isabelle à voir Gilbert Osmond et à lui faire part de son projet. « Je voudrais être à Rome avec vous, commenta-t-il. J'aimerais vous guider dans la ville prodigieuse. » Isabelle eut une hésitation imperceptible. « Pourquoi n'y venez-vous pas ? » ?»« Oh, il y aura trop de gens pour vous accompagner. » « C'est vrai, concéda Isabelle, je ne serai pas seule. » Il resta un moment silencieux, puis « Vous aimerez Rome, prophétisa-t-il. On l'a abîmée, mais vous en raffolerez quand même. Faudrait-il lui en vouloir, à cette pauvre vieille niobée des nations, parce qu'on l'a abîmée ? » demanda-t-elle. « Non, certes, cela lui est si souvent arrivé, fit-il avec un sourire. Et si j'allais là-bas, que ferais-je de ma petite fille ? Ne pourriez-vous la laisser à la villa ? Je n'aime pas beaucoup cela, malgré la présence d'une brave vieille qui prend soin d'elle. Je ne puis pas lui offrir d'institutrice. « Alors amenez-la avec vous, » conclut vivement Isabelle. Monsieur Osmond prit un air grave. « Elle a passé l'hiver à Rome, au couvent, et je la trouve trop jeune pour faire des voyages d'agrément. Vous ne voulez pas l'émanciper trop vite ?»« Non, je crois préférable de tenir les jeunes filles loin du monde. J'ai été élevée selon un système différent. Vous ? Oh, cela vous a réussi parce que vous étiez exceptionnelle. Je ne vois pas en quoi, » dit Isabelle, sans être sûre pourtant qu'il n'y eût pas une part de vérité dans cette affirmation. Monsieur Osmond n'insista pas et reprit. « Si je croyais l'aider à vous ressembler en l'amenant à Rome avec un groupe d'amis, je lui conduirais dès demain. »« Ne demandez pas qu'elle me ressemble, » protesta Isabelle. « Laissez-la telle qu'elle est. »« Je pourrais l'envoyer chez ma sœur, » fit observer Monsieur Osmond, en homme qui demande un conseil, et comme s'il eût pris plaisir à causer avec Miss Archer de ses affaires domestiques. « Oui, » approuva-t-elle, « ce ne serait certainement pas le moyen de faire qu'elle me ressemble. » Après le départ d'Isabelle, Gilbert Osmond rencontra Madame Merle chez la comtesse Gemini. Il y avait là d'autres personnes, car le salon de la comtesse était habituellement bien garni, et la conversation était générale. Mais après un certain temps, Osmond quitta sa place pour s'installer sur une ottomane contre le fauteuil de Madame Merle. « Elle veut que j'aille à Rome avec elle, » fit-il à voix basse. « Avec elle ? Pendant qu'elle y est, elle me l'a demandé. J'en conclus que c'est vous qui l'avez proposé et qu'elle a consenti. » « Je lui ai tendu la perche, je l'avoue, et elle est encourageante, très encourageante. Je suis enchantée de la prendre, mais ne chantez pas trop tôt victoire. Vous irez là-bas, bien entendu. »« Oh, soupira Osmond, que de peine me donne votre idée. Ne me dites pas que vous n'y prenez pas plaisir. Quel ingrat vous faites! Vous ne vous êtes pas employé aussi utilement depuis des années. Vous prenez les choses de façon magnifique. Voilà ce dont il faut vous savoir, gré, dit Osmond. Pas trop, je vous prie. » corrigea Madame Merle. Elle parlait avec son sourire habituel, et, renversée contre le dossier de son fauteuil, jetait les yeux autour d'elle. « Vous avez fait une excellente impression, et je constate que vous avez été touchée vous-même. Ce n'est pas par égard pour moi que vous êtes venue 7 fois chez Mrs. Touchett. »« La petite n'est pas déplaisante, » concéda doucement Osmond. Madame Merle abaissa un moment les yeux et serra un peu les lèvres. « Est-ce tout ce que vous trouvez à dire de cette belle créature ?»« Tout ? N'est-ce pas suffisant ?» De combien de gens m'en avez-vous entendu dire plus ? Elle l'écoutait sans cesser de montrer aux assistants une attention aimable. « Vous êtes insondable, » murmura-t-elle enfin. « Je suis épouvantée de l'abîme où je l'aurais lancée. » Il prit la chose avec enjouement. « Il n'y a plus qu'à vous retirer. Vous vous êtes trop engagée. » « Soit, mais c'est à vous de faire le reste. Comptez sur moi, » promit Gilbert Osmond. Madame Merle resta muette, et Osmond changea de nouveau de place, mais quand elle se leva pour partir, il prit aussi congé. La Victoria de Mrs. Touchett attendait Madame Merle dans la cour, et après l'avoir aidée à y monter, il resta debout comme pour la retenir. « Vous êtes bien indiscret, » dit-elle, avec quelque lassitude. « Vous n'auriez pas dû quitter le salon en même temps que moi. » Il avait ôté son chapeau et passé une main sur son front. « J'oublie toujours, je n'ai plus l'habitude du monde. » « Vous êtes tout à fait insondable, » répéta-t-elle, en regardant les fenêtres de la maison, bâtisse moderne d'un quartier neuf de la ville. Sans faire attention à cette remarque, il suivit son idée. « Elle est vraiment charmante. J'ai rarement vu personne plus gracieuse. Cela me fait du bien de vous l'entendre dire. Plus elle vous plaira, mieux cela vaudra pour moi. Elle me plaît beaucoup. Elle est bien ce que vous m'aviez dit et me paraît de plus susceptible d'un grand attachement. Je ne lui fais qu'un reproche. Lequel ? D'avoir trop d'idées. Je vous avais prévenu qu'elle était intelligente. Heureusement, ce sont de très mauvaises idées, dit Osmond. Pourquoi heureusement ? Dame, s'il faut les sacrifier. Madame Merle se renversa en arrière et regarda droit devant elle, puis lança un ordre au cocher. Mais son amie la retint encore. Si je vais à Rome, que ferai-je de penser ? J'irai la voir, promit Madame Merle.